Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Voilà, dans la partie santé aujourd'hui, on va voir donc comment se soigner, notamment grâce aux plantes. Et pour discuter de tout cela, vous êtes avec nous, Caroline Gaillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diététicienne, phytothérapeute et co-autrice du livre « Ma santé au naturel » aux éditions Le Duc. Alors, avant de démarrer, un mot sur ce qu'est finalement votre spécialité. C'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. De quoi s'agit-il concrètement ?
Alors, la médecine intégrative, c'est comment on vient intégrer à la médecine allopathique, donc la médecine par les médicaments, et bien d'autres formes de thérapie. Donc pour ma part, la phytothérapie, donc le soin par les plantes, mais aussi par les huiles essentielles, par la micronutrition, les produits de la ruche, enfin tout ce champ assez large. Ça peut être aussi par l'acupuncture, par l'ostéopathie, par l'homéopathie, par la psychothérapie, bref, tous ces axes de soins en fait qui peuvent déjà améliorer la qualité de vie du patient quand il y a des maladies chroniques qui va de toute façon devoir prendre ses médicaments tout le temps, bien pour avoir moins d'effets secondaires, mieux vivre, plutôt que d'éviter de la polymédication, donc au lieu de rajouter des médicaments sur déjà beaucoup de médications existantes, comment plutôt s'aider de ces autres thérapies pour
c'est pour ça.
C'est moi en fait j'aime pas qu'on parle trop des médecines douces, je préfère le terme de médecine complémentaire. Parce qu'en fait on est vraiment complémentaire à un diagnostic médical, une prise en charge médicale. Parfois effectivement on peut, sur la petite bobologie du quotidien, être une médecine douce et en soi tout
et
faire
unique,
avec
unique.
Mais après, sur d'autres choses plus complexes, grave. On vient en médecine intégrative.
Vous n'êtes pas contre les médicaments.
Ah non, surtout pas.
Voilà. Non, mais c'est bien de le dire, parce que parfois, et nous non plus, vous le savez très bien, il y a une suspicion de
Il y a beaucoup de dérives dans notre secteur, et c'est pour ça qu'avec Charlotte, qui est ma co-auteure naturopathe, on veut vraiment militer pour ce concept-là, parce qu'il y a un clivage aujourd'hui en France entre les pro-médecine douce et les pro-allopathie, et je trouve que ça, c'est désuet, il faut sortir de ça, il faut...
Être complémentaires les uns avec les autres.
Voilà, plutôt se rallier.
Caroline, vous écrivez notamment que le pilier de notre santé, c'est l'équilibre acido-basique dans notre corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, l'équilibre acido-basique, c'est un des piliers, parce qu'il y en a plusieurs, mais effectivement, c'est quelque chose qui, pour le milieu médical, n'est pas tellement pris en compte, parce que dans le sang, on a un pH sanguin qui est un peu tout le temps constant. Par contre, on a une acidité tissulaire, donc dans les tissus et pas dans le sang, qui, elle, peut s'accumuler.
Ça veut dire dans nos muscles, dans la peau
Exactement. Et en fait, avoir des retentissements sur de nombreux systèmes du corps. Et donc, l'équilibre acido-basique, normalement, en soi, on n'est pas censé y faire attention, parce que dans le corps, on a des systèmes tampons qui équilibrent très bien ça. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre hygiène de vie, par notre alimentation qui est trop riche, protéines animales et même végétales, en produits laitiers, avec du café, du tabac, de l'alcool, du stress,
du sucre.
Voilà.
C'est ça qui fait de la surproduction d'acide. Tous ces nuisibles-là, ces toxiques-là.
Exactement. Et donc à la fois on en produit et à la fois on a du mal à les éliminer. Et donc, le souci, c'est qu'on peut avoir de la chronicisation de douleurs inflammatoires
un petit peu
partout. Ça peut être des douleurs rhumatismales, ça peut être des tendinites à répétition, tous les trucs en IT à répétition. IT, c'est le suffixe inflammatoire. Donc les cystites à répétition, les tendinites à répétition, les bronchites, les sinusites chroniques. Tous ces trucs-là peuvent être en fait liés à un déséquilibre acido-basique. Et du coup, le fait de l'équilibrer, eh bien, ça améliore ses pathologies.
Non, mais moi, je veux bien.
C'est ce qu'on appelle l'acidose, c'est ça. Ça s'appelle de la trop d'acide, c'est ça, dans l'organisme.
On parle d'acidose tissulaire.
Mais moi, je trouve ça super d'être bien équilibré globalement, dans la tête et dans le corps.
C'est la base.
C'est la base. Mais comment on fait pour savoir qu'on est bien équilibré typiquement ? Et il faut faire une prise de sang ?
Alors,
comment je sais, moi, si je
veux bien ? C'est pas la prise de sang que vous le verrez forcément. En général, c'est plutôt. Alors. Déjà, il y a des gens qui vont parfaitement bien. Si vous êtes en bon état de santé général...
Vous avez l'air acide, Julia Vignali, ou pas ? Moi, je ne trouve pas.
Non. C'est ça. A priori, tout va bien. Donc déjà, quand tout va bien, a priori, c'est que ça va. Après, chez des gens qui vont avoir justement des problématiques de douleurs chroniques, d'inflammation chronique, alors qu'ils n'ont pas l'âge pourri, ce n'est pas des grands sportifs, ils ne sursollicitent pas tel organe ou tel groupe musculaire, c'est bizarre en fait.
Ouais. Donc, là, il faut aller chercher éventuellement.
Voilà. Et donc en fait, c'est plutôt avec du papier pH que vous achetez en pharmacie. Et donc en fait, c'est des petites bandelettes urinaires sur lesquelles on fait pipi dessus.
Tout simplement.
Tout bêtement. Quand vous l'achetez, il y a des petits gradients de couleurs en fait qui vous permettent de
vous
guider.
On demande ça à la pharmacie.
Ouais, ça coûte rien du tout. C'est moins de 2 euros.
Pas cher.
Et en fait, vous allez faire pipi dessus un peu sur toutes vos urines la première journée pour voir un petit peu justement comment, au fur et à mesure de la journée, votre pH urinaire a tendance à varier. Et en soi, c'est normal qu'il varie. Et après, les jours suivants, vous faites surtout sur la deuxième urine du matin, parce que physiologiquement, notre première urine du matin est toujours super acide. La deuxième doit l'être moins. Et ensuite, on voit. Et si elle demeure trop acide, effectivement, là,
un
rééquilibrage alimentaire peut être intéressant. Et puis, retravailler sur l'alcool, sur le stress, sur le tabac.
Bah oui, tout ce qu'on connaît et qui est mauvais pour la santé. Caroline ouais. Gaillet, on n'en a pas fini avec vous. On va rentrer un peu plus dans le détail de cette santé au naturel qui ne remplace pas non plus, on l'a compris, la médecine conventionnelle, quand on en a besoin, bien entendu. Alors justement, quelles plantes en particulier peuvent nous aider face à certains maux de l'hiver qui sont en approche? Comment lutter aussi contre le blues hivernal qui ne va pas tarder non plus? On vous dit tout sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission Feel Good, bien-être. Et à cette heure-là, on parle toujours plus particulièrement de votre santé et de votre santé au naturel. Aujourd'hui avec vous, pour y voir plus clair et ne pas faire n'importe quoi non plus, Caroline Gaillet, je rappelle que vous êtes diététicienne et phytothérapeute. Alors très concrètement, en consultation de naturopathie, vous dites dans votre livre que ça commence souvent par un bilan de vitalité. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous regardez pour faire ce bilan par exemple?
Oui, alors ça c'est surtout ma co-auteure Charlotte qui serait mieux placé pour en parler, mais parce que nous en diététique on fait pas tellement ça, mais bilan de vitalité ça va être déjà tout simplement, alors là on est en période Covid, on serre plus les mains, mais normalement quand on serrait les poignées de main, c'est voir un peu l'état de la main, est-ce qu'on a une poignée ferme ou pas. Ça va être aussi tout simplement si on a les avant-bras dévêtus, de regarder le niveau de pilosité.
Ah, il y a un test pourquoi aussi, les poils, pourquoi
la pilosité c'est un signe de vitalité. Alors je sais que nous les femmes on court tous derrière avoir, à les enlever, hein, mais au demeurant on
il est
doit...
très poilu notre réalisateur, ouais. Je crois qu'il est en forme, hein, Nicolas Baudin. Ouais, il me montre ses poils d'ailleurs à travers la vitre.
Après il y a un test aussi assez rigolo à faire, mais c'est de venir plisser l'oreille en fait. Ah. L'oreille c'est du cartilage, hein, principalement. D'accord. Et en fait plus l'oreille est molle, plus
donc
on peut la plisser.
On prend le haut supérieur, enfin le bord supérieur de l'oreille et le bord inférieur,
voilà.
et on la plie en deux.
D'accord.
Ouais.
Bah en fait, quand on alors en visuel, on peut pas trop se rendre compte, mais c'est surtout au toucher. Plus cartilage, en fait, il est mou.
D'accord.
Et plus ça signe bah, qu'effectivement, au niveau de notre minéralisation, on n'est pas forcément au top.
Oh, mais je pensais que c'était bien parce que c'était tout mou. Ah, bah me suis fait recoller les oreilles quand j'étais petite, je pense que ça ne marche pas parce qu'elles sont très collées, je ne peux pas les plier. Donc, ça ne va pas.
Bref, c'est tout un ensemble de signes. Ça peut même aller sur le timbre de la voix. Bon, là, moi, j'ai une petite voix cassée, mais. Sur voilà, même le regard, le blanc d'œil, voilà, tout un aspect.
Donc c'est
comme ça.
C'est un bilan complet de vitalité où vous regardez pas mal de paramètres. Alors voilà. Si effectivement mes batteries sont à plat, qu'est-ce que je dois faire en priorité? C'est quoi les mesures à prendre d'urgence si bah, l'oreille, le fond de l'œil est pas bon, il y a trop de poils ou pas assez de poils? Je crois que ça passe notamment par notre façon de mastiquer qu'il faut changer.
Oui, alors déjà, la base de base, c'est l'alimentation. J'insiste dessus parce que souvent, dans la naturopathie, la phyto, etc., les gens sont d'office, ils calent un peu sur ce qu'ils ont appris en allopathie. Ça va pas, je prends un médicament. Donc là, ça va pas, je prends un complément alimentaire. Non, la base de base, c'est revoir l'hygiène de vie. D'accord. Donc le sommeil, l'alimentation, c'est déjà deux gros piliers.
Avant de mettre des pilules dans notre bouche, oui, déjà, regardons ce qu'on met en aliment dans notre bouche.
Oui, déjà, ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus durable à long terme et ça vous responsabilise et ça vous autonomise dans votre bien-être. Et ça, c'est très important, plutôt que d'être dépendant d'une pilule quelconque. Donc après, parfois, il faut des compléments alimentaires et c'est OK. Mais effectivement, dans la façon de s'alimenter, outre le choix déjà qualitatif des aliments qu'on va manger, il y a la façon dont on va les manger. Effectivement, la mastication dont vous parlez, beaucoup de gens négligent cette première étape qui se fait en bouche. Alors parfois, parce qu'on a aussi des problèmes dentaires, je pense à des seniors, des gens qui ont eu des accidents de la route, qui ont des dents avec une occlusion qui se fait pas bien. Mais en fait, dans la bouche, nos dents servent aussi à déchiqueter les aliments pour les insaliver. La salive contient déjà des enzymes digestives qui vont permettre une pré-digestion de ce bol alimentaire pour défatiguer derrière le boulot de l'estomac. Quand vous envoyez des gros morceaux d'aliments dans l'estomac et en plus peu insalivés, bah lui, le pauvre, il va se galérer à sécréter énormément d'acide chlorhydrique.
Et c'est pour ça qu'on va être ballonné, pas bien, bien digérer, quoi, en fait.
Exactement,
hein,
on a des digestions, plus elles vont être lentes et plus elles vont plomber notre niveau de vitalité et donc les coups de barre post-prandiaux, donc juste après le repas. Et voilà. Ça peut aussi être d'éviter de finir le repas par un petit café, qui est une habitude.
Et pas bien, ça.
Ouais, beaucoup de Français ont cette habitude-là. C'est pour une raison toute simple. Dans le corps, on a deux systèmes nerveux qui s'opposent. Un système sympathique, qui a l'air sympathique comme ça, qui est un système plutôt de tonus, d'activité. Ouais. Et un système parasympathique, qui est plutôt un système de calme, de détente. Et en fait, on ne peut que bien digérer en état parasympathique. C'est pour ça que nous, les diètes... Enfin, et même les naturaux, on bassine tout le temps les gens à dire qu'il faut manger assis, dans le calme, prendre le temps de mastiquer, se couper des autres distractions, du téléphone, la télé, etc., pour ne faire que manger, parce que quand je suis au calme, j'active mon système parasympathique et donc j'ai toute une activité enzymatique qui se passe mieux. Alors que si je suis... Et le café, en fait, ça c'est excite. Un neurotonique, c'est un excitant. Donc si à la fin de mon repas, où je suis en plein dans ma digestion, je me bois mon petit café... En fait, le café réactive mon système sympathique, mon système de réveil, d'attaque. Voilà. Et donc, du coup, cette hypervigilance produite par le café, eh bien, retarde ma vidange gastrique.
Ça veut dire que le café, on le prend combien de temps après le repas du midi, par exemple ?
C'est soit deux bonnes heures après, c'est plutôt vers 14-15 heures. Ah oui. Et sinon, en fait, c'est en fin de matinée. C'est vers 11h, 11h30.
Avant de manger,
avant de manger. Si vous mangez à 12h30, un petit café à 11h30, il n'y a pas de souci.
On fera le café en entrée, alors, dorénavant. Les modes de cuisson qu'on utilise aussi au quotidien, donc ont leur importance, je crois. Vous misez beaucoup sur la cuisson vapeur. Pour quelles raisons et quel est le rapport avec la vitalité ? Cela dit, moi, j'utilise un vitaliseur, justement.
Ah, c'est le mieux.
C'est très bien.
Vitaliseur de Marion. Alors en fait, la cuisson vapeur, oui, en fait, ce sont surtout, on distingue nous des cuissons sèches et des cuissons humides. En fait, ce qu'il faut toujours privilégier, c'est la cuisson humide. Donc quand vous cuisinez à la poêle anti-adhésive avec le couvercle, donc à l'étouffer, mijoter comme
c'est
ça,
mieux.
C'est mieux parce qu'en fait, les cuissons humides, vous gardez tous les micronutriments qui sont, donc tous les petits trucs, la zinc, sélénium,
les vitamines,
etc., vous les préservez mieux. Et c'est vrai que quand vous faites des cuissons sèches, à la poêle comme ça, mais sans le couvercle. Donc
en
wok,
par exemple, ça, c'est pas idéal pour les vitamines et tout ça.
Ben, oui et non, parce que le wok, c'est un temps de cuisson qui est très court. Donc, en fait, toutes les vitamines qu'on dit thermosensibles, elles vont être confrontées à la chaleur très peu de temps. Donc
bon, juste une poêle classique, on va dire, pas un wok, mais très chaud, ça va pas être très bon et à découvert.
Le four aussi, le four, c'est des cuissons très sèches, tout s'évapore.
Alors, moi, j'ai une question, parce que là, on l'a bien senti, on est entré dans l'automne, les températures diminuent, les premiers virus saisonniers apparaissent. On va voir avec vous ce que nous devrions avoir dans notre trousse d'automne. Vous conseillez notamment en phytothérapie l'ortie piquante. Pourquoi ? Et on la trouve où ? Et comment on fait pour la consommer ?
Alors l'ortie, en fait, c'est que c'est une plante reminéralisante. C'est une plante qui apporte aussi du fer et c'est une plante qui apporte énormément de minéraux, d'oligo-éléments et surtout du silicium. Et la silice, c'est un peu comme un ciment dans notre corps. C'est un élément fixateur, en fait, et qui va permettre justement de garder ces minéraux. Et avec le stress qui nous carbure énormément de minéraux, l'ortie vient faire cette recharge minérale. En plus, elle apporte du fer, donc elle apporte du tonus sans exciter le corps. Elle va être très complémentaire de la vitamine D, avec justement l'arrivée de l'automne, la baisse de la luminosité. Il y a ce petit blues hivernal. La vitamine D, c'est la vitamine qu'on a normalement par le soleil. Donc normalement, on recharge nos batteries l'été. Encore que quand on se tartine d'écran solaire, ce qui est important pour prévenir le mélanome, ben en fait, on capte nettement moins de vitamine D.
Donc c'est pour ça que parfois on se complémente en vitamine
D. Oui, la vitamine D, elle est obligatoire en supplémentation, franchement, pour tous les Français. La plupart sont carencés.
Et l'ortie, ça va nous aider à passer l'automne.
Donc ortie et vitamine D, c'est un peu un binôme incontournable de cette période automne-hiver.
Et vous conseillez de les prendre ensemble ou séparément ?
Ensemble. En fait, la vitamine D, c'est tous les mois en R de l'année. Donc c'est de septembre à avril. Mai, juin, juillet, août, on pourrait s'en passer. Après, passer la ménopause, on conseille de le faire toute l'année parce que ça aide aussi sur l'ostéoporose, etc. L'ortie, ça peut être juste sur la saison automne-hiver.
Bon, c'est très intéressant. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On va passer quand même à ce fameux blues hivernal qui va pas tarder à arriver quand on va changer d'heure, justement. C'est quasiment chaque année, octobre, novembre, ce petit coup de mou même au moral. Là, qu'est-ce que vous conseillez ? Qu'est-ce qu'on peut manger ou boire pour éviter qu'il arrive même ce blues hivernal ?
Donc déjà, la vitamine D. Alors, dans les aliments, il n'y a pas beaucoup de sources de vitamine D, si ce n'est les petites boîtes de foie de morue, les petites conserves de foie de morue, ça sur du pain gris.
On me donnait ça, c'était horrible. Moi.
Non, c'est super. L'huile de foie de morue, le foie de morue, les conserves de foie de morue, là, au rayon des boîtes de sardines, ça c'est très bon.
Oui,
sur
moi, c'était
du pain gris.
À la cuillère avant d'aller à l'école, c'était horrible.
Je sais.
Avec des petites remontées toute la matinée, c'était affreux, franchement.
Tout le monde a été traumatisé avec ça, mais pourtant, ça reste quelque chose de très bien. Vous avez aussi les agrumes, on va rentrer dans la saison des clémentines, des kiwis, etc.
Donc, il faut y aller à fond.
Ouais, ça, tout ce qui est fruits et légumes frais et deux saisons. Les saisons ne sont pas là pour rien. Donc, si on peut le plus possible les respecter et de qualité bio, si on peut, et français, c'est mieux.
C'est quand même mieux.
Quand on peut.
Et attendez, moi, je voudrais vous parler vite du changement d'heure. Là, ça va arriver à la fin du mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous prescrire du côté de la phyto et notamment à des patients insomniaques ?
Alors, s'ils sont stressés, insomniaques et qu'ils sont du coup un peu en perte de vitalité, une plante qui est géniale, c'est l'ashwagandha.
Ashwagandha.
On l'appelle le ginseng indien. Donc, c'est une plante issue de l'ayurveda, la médecine traditionnelle indienne.
Moi, je connaissais la valériane qui a fait ses preuves.
Le griffonia.
Oui, alors, valériane et griffonia sont des plantes qui sont très bien effectivement pour dormir. Griffonia, en plus, a un rôle sur l'humeur qui est bénéfique. Mais l'ashwagandha, là où elle est supérieure, c'est que c'est une plante adaptogène, donc qui va aider le corps à s'adapter aux différents stress, compris ce stress du changement d'air.
C'est génial.
À s'adapter au stress de la vie tout court.
On trouve ça en pharmacie aussi.
Ou à pharmacie, boutique bio, herboristerie. Et l'ashwagandha, en fait, c'est la seule plante qui régule le rythme jour-nuit. Donc quand vous la prenez le matin, elle vous donne la pêche et du tonus. Et quand vous la prenez le soir, elle vous aide à dormir. Ce qui n'est pas le cas du griffonia ou de la valériane qu'on prend plutôt en fin de journée parce que ça ne fait qu'aider à dormir. Ça ne donne pas
génial.
Du tonus. Donc l'ashwagandha est surtout et en plus sur l'immunité.
Ashwagandha, parfait. Merci beaucoup, Caroline Gaillet. Je pense qu'on devra vous réinviter dans cette période d'hiver, d'automne, là, parce
avec
qu'on a encore
plaisir.
Plein de choses à dire. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle votre livre dans lequel il y a plein d'infos complémentaires. Ma santé au naturel aux éditions Le Duc. Merci encore.